à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez tous sans doute, qui s'appelle Ludovine de la Rochère. Madame de la Rochère, bonjour.
Bonjour.
Ludovine de la Rochère, oui, je pense que tout le monde a au moins entendu parler de vous, si ce n'est vous connaît un peu plus, puisque vous êtes la personne qui a cofondé la Manif pour tous en 2012, il y a déjà 14 ans, un peu plus de 14 ans. Et vous avez présidé cette association de la Manif pour tous avec beaucoup de conviction et en portant fort une parole intéressante. Et puis en mars 2023, c'est-à-dire un an et demi à peu près, vous avez lancé le syndicat de la famille. C'est bien ça?
Oui.
Le syndicat de la famille. Donc on va parler dans ce premier entretien, puisqu'il y en aura d'autres, on va parler de la famille. Mais avant, je voudrais dire que quand même, vous n'êtes pas en reste puisque vous avez quatre enfants. Je crois même savoir que vous avez aussi des petits-enfants. Que ça commence.
Une petite fille.
Une petite fille. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage en 2007 qui s'appelle « Famille, je vous aime » aux éditions PGDR. Vous défendez une vision de la famille qui est une vision stable et c'est à travers ces engagements que je pense la plupart de nos auditeurs ont pu vous voir à la télévision. Vous avez été auditionné aussi dans de multiples cénacles, notamment à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'ONU. Donc vous portez haut et fort cette parole qui défend un modèle familial que je qualifierais presque de traditionnel, mais en fait, il n'y a rien de traditionnel là-dedans, qui est un modèle familial éternel. Un enfant, c'est avec un papa et une maman,
oui.
Et ça a toujours été comme ça.
Ça n'est pas une question de tradition, c'est la réalité de l'anthropologie.
Voilà.
Très simplement.
La réalité, donc, vous défendez ça en disant qu'il faut se méfier et que dans tout ça, les enfants ont besoin de repères. Et le repère d'un papa et d'une maman ne sont pas les mêmes. Bref, tout ça pour vous dire que nous allons parler du problème de la famille et d'abord en commençant par s'interroger sur cette baisse de la natalité en France. On était jusque-là plutôt bons élèves dans le monde occidental puisque la natalité en France était plus élevée que la moyenne des autres pays et même plus élevée que la plupart des autres pays. Et puis là, depuis 2-3 ans, il y a une chute assez sévère de la natalité en France. Et tout le monde peut s'en rendre compte à travers notamment une jeunesse qui dit souvent qu'elle ne veut pas avoir d'enfants. Donc vous, comment vous vous positionnez par rapport à ce problème de la baisse de la natalité?
Alors, la baisse de la natalité est une question qui concerne l'ensemble de l'Occident. Et vous avez raison, la France avait une natalité jusqu'en 2010-2011 qui était plus importante que la plupart des autres pays européens. Malgré tout, elle était de 2,01. Or, le seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1.
Ouais.
Donc, en vérité, nous étions déjà en dessous et depuis des années. Et puis, il y a eu un décrochage, une baisse assez nette à partir de 2011, et puis une accélération très franche à partir de 2015, qui est une année... à partir de laquelle il y a eu un certain nombre de mesures de politique familiale classique qui ont été supprimées. Mais j'y reviendrai. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que nous sommes donc aujourd'hui à 1,62 enfants par femme. C'est très, très modeste. Et j'entends sans cesse dans les médias, ça n'a jamais été aussi bas que depuis 1945. En vérité, ça n'a jamais été aussi bas de toute l'histoire de France.
Sauf pendant les périodes de guerre. Bon, et on peut
et encore,
pourquoi.
Sauf pendant une petite période de la Première Guerre mondiale.
Oui.
Mais voilà. En tout cas, c'est extrêmement bas. Bien sûr, et cela pose des problèmes immenses. Mais il faut savoir que le désir d'enfant, C'est-à-dire quand on interroge les Français et qu'on leur demande à chacun combien d'enfants ils souhaiteraient avoir, la réponse donne une moyenne de 2,3 enfants. Et donc, le désir d'enfant existe toujours bien réellement, contrairement à d'autres pays.
Ça, c'est une statistique qu'on connaît moins, oui.
C'est une très bonne nouvelle.
Oui.
Et alors, les médias se font beaucoup l'écho des ce qu'on appelle les « child-free » ou « no kids », c'est-à-dire ce plus ou moins mouvement de jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants pour des raisons écologiques. En fait, c'est très marginal. Et puis, en avançant un peu en âge, à un moment donné...
Voilà. Il y a quand même une sorte d'instinct qui réapparaît.
Alors, je dirais que le naturel revient au galop. Et puis, après, il y a plein de raisons, bien sûr, liées à notre société, liées au, à l'individualisme, mais aussi au fait qu'on ne rend pas aujourd'hui la maternité, la paternité, la famille attrayante. Parce que les féministes détestent la maternité, tout simplement, parce que les pères sont très discrédités, très vilipendés, très critiqués. Donc ça ne donne pas envie, la paternité ne donne pas envie. Et quand tu as fondé une famille, la famille, elle est mal vue aujourd'hui, elle est critiquée. Et donc, on peut penser que chez des jeunes qui disent « j'aurai pas d'enfant pour des raisons d'écologie », il y a en fait aussi une vision très négative. Et puis en avançant dans la vie, devenu adulte, ils se rendent compte que c'est plus compliqué que cela. Que...
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons, je dirais, matérielles, hein? Par exemple, avoir une famille nombreuse, c'est devenu extrêmement compliqué. Les voitures ne sont pas adaptées à plus de 2-3 enfants, hein, sinon c'est les minibus qu'il faut acheter. Les appartements, c'est rarement plus de 2 ou 3 chambres, et encore quand on arrive à se les payer. Et donc, on voit bien que tout ça n'est pas organisé pour...
Alors, cette baisse de la natalité très radicale, elle correspond très clairement à des aspects, d'ailleurs c'est dit hein, dans les études qui ont pu être menées, des questions de difficultés matérielles et financières croissantes. Deuxièmement, la difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, et ça concerne en particulier les mères, qui généralement, dans le couple, sont celles qui tiennent davantage à certains temps de présence au quotidien auprès de leurs enfants. Alors ça ne plaira pas aux féministes ou aux woke, mais c'est un fait. Le congé parental, il est pris dans 96% des cas par la mère.
Ouais.
Donc on a des goûts, des aptitudes, des souhaits différents, pas toujours, mais souvent.
Mais ensuite, mener les doubles carrières, quand même, là, moi, c'est mon cas, mais je ne suis pas le seul, où j'avais une femme qui a mené sa propre carrière parallèlement à la mienne, et je pense que vous êtes à peu près dans la même situation, ça veut dire qu'on a des couples symétriques, et cette notion de couple symétrique, où l'homme et la femme ont des rôles indifférenciés vis-à-vis de tout ce qui est organisation des enfants pour les récupérer à l'école, pour faire les courses, pour... c'est de plus en plus fréquent. Ça,
c'est de plus en plus fréquent. Moi, je dirais jamais que ce sont des rôles indifférenciés, parce que même quand un homme fait la même chose qu'une femme et vice-versa, on le fait et nous le faisons chacun différemment.
Bien sûr.
Mais si vous me permettez, j'y reviendrai avec beaucoup de plaisir. C'est une question très importante, différence père-mère et donc différence homme-femme, etc. Mais pour revenir sur la question de la natalité, il y a un troisième facteur important qui est pointé, qui est souligné par les personnes qu'on interroge, qui sont la disparition, l'instabilité et la disparition d'un système qui est celui de la politique familiale avec l'universalité des allocations familiales, c'est-à-dire qu'elles sont proposées à tout le monde, avec la baisse du quotient familial, etc. etc. Mais là-dessus, moi, je ferai deux remarques. D'abord, l'arrière-plan ou le contexte idéologique est certainement extrêmement important. L'individualisme, nos modes de vie ne donnent pas envie d'avoir des enfants et ne se prêtent pas à avoir des enfants, premièrement. Si vous regardez tout simplement, par exemple, le temps d'écran quotidien passé par les Français sur leur téléphone, avoir un enfant, c'est renoncer pour une partie à cette activité. Et puis, il y a un autre aspect qui est une vision de la politique familiale qui, à mon sens, est très réductrice. Je m'explique. En France, la politique familiale, c'est les allocations, la fiscalité. Et je pense que c'est une erreur immense. Je pense que nos politiques doivent avoir, et qu'il faudra bien acquérir petit à petit, une vraie culture politique de la famille, donc une connaissance de la réalité familiale, mais aussi une vision à échelle beaucoup plus large qui implique la famille dans toutes les décisions prises sur un plan politique. Et vous évoquiez très justement le logement, et on peut parler des transports, des cultures, de la culture. Tous ces sujets impactent considérablement la vie familiale et la rendent, selon la manière dont ils sont traités, plus ou moins facile ou difficile pour la famille. C'est-à-dire qu'on facilite plus ou moins la vie des parents et l'éducation des enfants.
Si je comprends ce que vous me dites, c'est une politique familiale qui doit nous permettre, s'il y a effectivement le désir d'enfant, de retrouver une natalité correcte. Et donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En 2015, on a commencé à réduire la voilure sur la politique familiale. Vous pensez donc que si on remet une vraie politique familiale adaptée à une natalité, ça reviendra.
Je pense que déjà, il faut changer de culture et acquérir une vraie culture de la famille.
Mais ça, changer de culture, c'est compliqué.
Non, mais quand je dis
ça
changer de culture...
Ça ne se fait pas par un claquement de doigts.
Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais il y a urgence. La famille, bien sûr qu'elle a des côtés pesants, elle peut être pénible, mais en même temps, la famille, elle est absolument irremplaçable. Et aujourd'hui, on ne cesse de passer des signaux dans l'autre sens à tous les jeunes.
Donc vous, le syndicat de la famille, vous avez un programme...
Tout à fait.
Prêt à l'emploi pour les politiques.
Exactement. Et puis deuxièmement, donc il faut une politique familiale ambitieuse avec une vision large, de manière à rendre possible d'abord le fait de s'installer en couple, de se marier tout simplement, de se loger par exemple, et puis rendre possible l'accueil de l'enfant et faciliter son éducation.
Les
aujourd'hui,
crèches,
tout
les...
va dans le sens contraire.
La garde.
Par exemple, libérer le congé parental, ça libérera des places de crèche, parce qu'aujourd'hui, on a un problème absolument immense sur cette question-là. Le congé parental a été tellement mis sous contrainte en 2015, justement, sous François Hollande, que les parents ne peuvent plus le prendre et le prennent de moins en moins. Et de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment de places en crèche ou de places de garde formelle pour les enfants. Il y a vraiment un travail immense à faire. Et contrairement à ce que prétendent certaines sensibilités chez les universitaires et les politiques, oui, la politique familiale a un impact. L'histoire, les faits le montrent parfaitement. Elle a un impact sur la natalité.
Bien, eh bien, Madame La Rochère, merci pour ce message d'espoir. Je retiens que le syndicat de la famille a un programme pour relancer la natalité. C'est une bonne nouvelle et j'espère que vous serez entendue puisqu'il y a des prochaines échéances qui vont se présenter à nous dans 2 ans. Et c'est le moment de dire qu'on peut encore faire des choses. Merci beaucoup, Madame de la Rochère.
Merci à vous.